Ben bonjour Pedro Pierre Berger ou Pierre Berger.
Bonjour.
C'est selon. En tout cas, c'est le pseudonyme qui trône à Rochechinard durant cet été pour une exposition de peinture. Vos œuvres qui ont fait cette saison estivale avec la Maison Musée. Outre le cubiste rond que Jean-Daniel aime vous donner aussi comme originalité de peinture, c'est aussi l'artiviste que vous êtes et qui revenait juste d'Ukraine. Là, on est au finissage de l'exposition présentée cet été. C'est pour vous une expérience humaine très forte que vous vivez et dont le dessin résonne aussi, ce que vous apportez un peu, on peut le dire, depuis quelques années, du baume au cœur, à l'âme, à l'Ukraine, avec vos productions. C'est tout votre cœur que vous transportez en dessin dans ce pays.
Alors l'exposition qu'il y avait ici, merci Jean-Daniel, merci Thibault, c'était du travail hors Ukraine, la plupart des dessins. À part quelques-uns faits sur scène avec Rachel de Toulouse en performance. Mais il y avait une petite pièce consacrée à l'Ukraine avec des photos et les dessins in situ. Ça fait 3 ans que je travaille là-bas, alors je ne fais absolument pas de géopolitique. Je ne peux pas en faire, je ne suis pas neutre. Depuis que je vais là-bas, je suis côté ukrainien donc. Mais je travaille moi sur de façon humaniste avec les civils dans la guerre. Tous les invisibles de la guerre et leur façon de résister par en amenant les gosses à l'école avec les sourires. Là, c'était un peu plus impactant parce que j'ai offert une résidence dans un musée qui a été canardé d'ailleurs, à Tchernigiv. Donc, je suis parti pour la résidence pour continuer des accrochages dans les zones bombardées qui provoquent les témoignages des survivants. Donc, je suis mouillé aussi dans des enquêtes de crimes de guerre. C'est pour ça aussi que je suis ciblé maintenant là-bas. Donc artiviste, ça veut dire prise de risque aussi. L'art, ça peut être ça aussi. Et j'ai travaillé aussi une semaine avec... j'ai participé à la formation d'une fondation qui s'appelle Jetia, ça veut dire la vie, pour les mutilés de guerre. J'en suis membre fondateur donc. Et j'ai travaillé du coup en hôpital avec les mutilés. Toujours avec cette idée que l'art ouvre des fenêtres et allume des lumières. Et effectivement, avec les dessins, on fait naître des sourires où il n'y en avait plus. Voilà.
Et c'est avec l'association Arcane, avec laquelle vous œuvrez depuis 2-3 ans maintenant, que vous établissez ce pont, on peut dire, artistique entre la France et l'Ukraine.
Alors Arcane est né post-Covid, c'est mon asso. J'ai créé ça pour légaliser une activité, puisque je suis aussi professeur d'histoire. Et il se trouve que quand l'Ukraine a été envahie, bon, on suivait ça déjà, la guerre avait commencé bien avant, dans le Donbass. Mais du coup, Arcane, je me suis consacré à l'Ukraine depuis 3 ans, avec des voyages répétés là-bas. Et Arcane, en fait, ce n'est pas que l'Ukraine, mais là, il se trouve que depuis 3 ans, c'est ça. Voilà. Mais après, il y a tout le reste du travail. Je travaille beaucoup aussi sur des festivals de tango. J'adore le tango. Des scènes de rue, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le jazz, j'ai beaucoup travaillé à Marciac. Je suis de par là-bas. J'ai mes copains là-bas, j'ai travaillé en galerie à Marciac. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, c'est l'Ukraine qui a pris toute la place. Voilà.
Parce que vous êtes prof d'histoire, mais auparavant, vous avez aussi un rapport avec les Beaux-Arts.
J'ai passé 4 ans, presque 5 ans, aux Beaux-Arts de Paris, chez Velikovitch, derrière Alechensky. Merci Vladimir, qui m'a formé en dessin. Merci les Beaux-Arts, hein, parce que où j'ai croisé des tas de gens. Connu aujourd'hui. Et j'avais enterré ça le temps de fonder une famille et de remplir le frigo avec mon métier. J'ai fait une agrégation de géographie derrière. Et puis le dessin est revenu à toute vitesse sur des carnets de voyage et des nouvelles. Et puis petit à petit, je me suis remis à dessiner, à peindre et ça a pris toute la place. Aujourd'hui, ma vie, je suis presque schizophrène, quoi. C'est-à-dire c'est mythe-mythe. Voilà. Le dessin prend même de plus en plus de place.
Il y a un côté d'impulsion véritablement dans le dessin. La moindre émotion se traduit avec des traits de dessin.
Moi, je travaille avec des énergies. C'est-à-dire que ce soit des tout petits dessins de bord de tasse de café ou des formats de 10 mètres. Même un petit est un petit grand dessin. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une énergie. Et l'énergie, elle s'est nourrie de... On va arrêter avec l'Ukraine, mais souvent, le matin, je dessine au café avant d'aller au boulot. Et c'est le... C'est l'énergie, des tasses qui sont cassées, des gens, des artisans qui partent. C'est tout ça qui me nourrit. Voilà, effectivement, c'est toujours une fulgurance. Une fulgurance au départ, oui.
En plus qu'on aborde le dessin, ces lignes, il y a quelque chose quand même qui est assez étonnant dans vos productions, c'est que finalement, on voit très très peu de lignes droites. Tout est rondeur, tout est courbe.
Mais parce qu'en fait, quand je travaille, ma main travaille pas indépendamment, c'est pas vrai de ma tête, mais le trait appelle le trait. Et en fait, quand on dessine avec un trait qui appelle un trait, finalement, le crayon se lève peu. Et la forme ronde s'impose d'elle-même. Mmh. Et voilà pourquoi c'est presque des écritures, en fait. Hein. Presque des calligraphies, mais dessinées. Parce que la formation des beaux-arts, j'ai quand même les fondamentaux de dessin classique. Mmh. Voilà.
Des œuvres sur le front, vous êtes véritablement engagé, puisque vous, on peut le dire, hein, vous avez risqué votre vie à aller dans des bâtiments canardés. Hein, on vous a proposé même d'aller dans des abris, vous avez refusé pour camper le lieu avec vos productions.
Alors, moi, je ne vais pas au front. Hein. Le front, je pense que si un jour je me trouve dans une situation où le métal vole à l'horizontale, ce n'est pas ma place, je ne suis pas un soldat. Hein. Mais les endroits où je vais, ça tombe, et ça tombe de plus en plus. Donc je vais surtout sur la zone de Tchernigiv et toute la zone vers Soumy. Là, je suis appelé à aller travailler vers Kharkiv et voilà, des zones, même Odessa, on m'a demandé. Mais si vous voulez, c'est devenu impliquant parce que la situation s'est tendue. Et je connaissais les alertes, je connaissais, en m'approchant, j'ai travaillé quand même à même pas 10 km des Russes, donc c'est des portées d'artillerie là. Hein. Mais là, cette fois, j'étais sur une ville bon, qui est au nord-est. Mais en un mois, on prend 6 missiles Iskander. Quoi. La DCA tire, les Shahed passent toutes les nuits. Oui, ça s'est tendu. Mais c'est ce qui fait aussi la légitimité de ce travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on choisit d'aller porter l'art pour allumer de l'espoir, hein, il faut que ça soit sincère et honnête. Et si je reste, j'ai rien contre le Lviv, mais si je reste à l'ouest contre la Pologne, en vérité, ils sont canardés aussi, hein, mais très peu. Ils vivent presque normalement, il n'y a pas de blackout. Moi, je vis avec le blackout là-bas. La ville s'éteint, toute la ville, Grenoble, dans le noir. Hein. Et avec les drones, et ça nourrit aussi le dessin, ça. De la même façon qu'une ambiance le matin au café va mourir du dessin de café. C'est très paradoxal, mais la guerre, en fait, c'est un puissant moteur de création. Ah oui. Ouais. C'est très paradoxal, mais c'est vrai.
Parce que ça va chercher très profondément, au fond de votre être, des ressources artistiques un peu subconscientes, on peut dire.
Ça fait plusieurs fois que je vais là-bas. Je suis parti, bon, il y a quelqu'un qui vient régulièrement avec moi, qui s'appelle Jean Di Bartolomeo, mais je suis parti avec d'autres gens, pas toujours les mêmes. Et chaque fois, les gens se révèlent. Se révèlent parce que l'enjeu, c'est l'enjeu vital. Et on ne triche pas. Il n'y a pas de contorsion intellectuelle, de raisonnement. Il se trouve que peut-être, le soir même, on n'est plus là. Et ça épure beaucoup de choses. Et encore une fois, c'est étonnant de dire ça, mais oui, la guerre est un moteur. Moi, j'ai grandi avec Guernica sur mon mur, qui est le symbole, je pense, d'une population civile bombardée. Et la fresque que j'ai laissée, c'est un dessin qui fait 10 mètres de long sur 1,50 de haut, qui s'appelle donc La vie de Jetia, que j'ai dédicacé à une amie qui s'est faite tuer une semaine avant dans les tranchées, Mary. J'appelle ça mon Guernica, en fait, c'est vrai, c'est ça. C'est ça, j'ai redessiné, avec mon trait à moi, les civils dans la guerre, ouais, c'est ça.
Une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est votre premier lien avec l'Ukraine.
La première fois que j'ai entendu parler de l'Ukraine, c'était pour mon agrégation, c'était mon sujet en oral d'histoire. Voilà, c'est très étonnant. Et des années après, je suis prof d'histoire géo, donc on a le nez dans la géopole. Hein. Et quand ça a démarré, c'était existentiel pour moi, je ne pouvais pas ne pas dessiner. Donc le jour de l'invasion, j'ai commencé à travailler. J'ai fait des expos caritatives où l'argent allait aux réfugiés. Et dans ces expos caritatives, j'ai rencontré un contact. J'ai donc rencontré des réfugiés ES qui immédiatement m'ont demandé d'aller travailler en Ukraine. Mais moi, je savais que je partais déjà. Ma mère m'avait dit, on sait que tu vas y aller. Et du coup, elle a fait le contact. J'ai été logé. Un mois après, j'y étais, quoi. ça a été très rapide. Et puis là-bas, j'ai une amie qui est devenue une sœur, Sestrichka Victorien, dont le mari se bat depuis 3 ans, blessé 2 fois. Et elle va peut-être arriver à la maison, là, se réfugier un peu, une semaine. Et elle a l'épreuve de français. Donc H24, cette jeune maman avec moi qui est capable de traduire en simultané quand je parle avec les Ukrainiens. Parce que moi, j'apprends l'ukrainien, je m'y suis mis, mais c'est une langue très compliquée pour moi. Donc grâce à elle aussi, c'est devenu quelque chose de collectif, l'Ukraine. Le moteur, c'est mon travail, certes. J'ai fait des choix au départ et j'ai mis en place quelque chose. Mais avec les gens avec qui je pars, avec Victoria, avec les gens là-bas qui m'attendent maintenant, avec le public dans des expos comme ça qui écoutent les témoignages, il y a quelque chose, pour ça que j'appelle ça Razom. Razom en ukrainien, ça veut dire ensemble. Et en fait, c'est devenu quelque chose de collectif. Finalement, moi, je travaille, mais c'est plus ça, l'œuvre d'art n'est plus du tout le dessin. C'est le moment d'installation et le moment du partage là-bas, mais aussi ici. Parce que les grands dessins, je les fais ici, ou j'en fais là-bas. Ils viennent ici, ils repartent là-bas, et puis finalement, souvent, je les donne là-bas. À l'hôpital, à un musée, à une institution. Mais cet aller-retour, pour moi, l'œuvre d'art, elle est là. Elle est dans cet échange-là. C'est très humaniste et très humanitaire, parce que j'ai aussi laissé 300 dessins qui sont vendus là-bas et pour les orphelins. Donc il y a aussi une retombée économique. Ce n'est pas simplement un délire d'artiste. Je voulais qu'il y ait une vraie retombée pour des médicaments, pour des tourniquets. Pour les tourniquets sont les garrots. Voilà.
Et quelle est la perception bien du public, notamment, il y a aussi des personnes qui sont mutilées auprès de qui vous avez œuvré. La perception de ces dessins qui, finalement, ont beaucoup de couleurs, de courbes, qui donnent une certaine effervescence.
Alors, maintenant, j'y vais à peu près serein. Mais quand j'ai commencé, il y avait une vraie prise de risque, hein, c'était sans filet. Après tout, ils pouvaient me rejeter et dire « Mais qu'est-ce qu'il vient foutre avec ses dessins ? Le village est bombardé, il y a des morts. » Et c'est tout le contraire qui s'est passé. J'ai été accueilli partout à bras ouverts, avec des sourires, « Merci, encore, quand c'est que tu reviens. » Donc c'est très bien perçu. Très bien perçu. Puis le dessin, vous voyez, c'est quelque chose qui est doux et très respectueux des rythmes de souffrance des gens. Vous prenez un appareil photo ou un micro, les gens ne témoigneront pas de la même façon, ils n'y arrivent pas. Il y a beaucoup de gens sous anxiolytiques là-bas. Hein. Et en fait, quand j'arrive avec les dessins, que je les pose, les gens arrivent, parlent, se racontent des histoires, puis finissent par raconter la leur. C'est pour ça aussi que j'ai mis en place un long travail. Ça fait 1 an que je travaille là-dessus, j'ai à peu près 110 portraits maintenant. Je suis parti avec une valise au gabarit de mes 30-40. Et partout où je vais, j'ai la valise et j'ai une centaine de dessins dans un carton. Et les gens qui acceptent, j'appelle ça des portraits consentis, ils choisissent des dessins qu'ils mettent dans la valise, souvent des objets à eux, et ils posent en racontant leur histoire. Et toute cette série de photos est demandée par l'oblast où je travaille, parce que pour eux, c'est déjà un document historique. C'est déjà des archives des civils. Voilà, donc il y a aussi ce travail-là. C'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses en 3 ans, là. Mais il me tarde de repartir, en fait. J'ai besoin vraiment de me reposer, là. Oui. On rentre fatigué, abîmé. Mais une fois la fatigue passée, on sait qu'on est dans le bon axe.
Ouais. Et de récupérer aussi psychologiquement.
Absolument. Bah, vous avez tout dit, voilà. C'est bien la Coupe Icare, mais moi, j'habite à 3 km. Et pour moi, la Coupe Icare, c'est merveilleux, les montgolfières et tout. Mais quand des avions font des acrobaties, c'est exactement le son des drones Shahed et c'est compliqué. Mais malgré tout ça, malgré aussi ce que supporte ma famille, mes gosses, mes parents, parce qu'on ne part pas tout seul, hein. On fait des lettres quand on part, hein. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que c'est tout bénef. Humainement, c'est que du bon. Que du bon. Ouais.
Merci Pierre Berger.
Mais écoutez, merci pour l'entretien. Merci beaucoup.